Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle.
À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h.
Sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage,
contre toutes les cages.
Bonsoir, vous êtes bien dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages, contre tous les enfermements et toutes les prisons. Ce soir, on est en direct jusqu'à 22h pour la 47e émission. Et dans le studio, il y a...
Salut, c'est Kate.
Salut, c'est Alix.
Hello, c'est Henri à la technique.
Salut, c'est Pile. Et donc, ce soir, on va vous parler du suicide en prison. Mais en attendant, on va faire quelques brèves. Et avant ça, je voulais rappeler qu'il ne fallait pas hésiter à nous appeler pendant l'émission au 01 43 71 89 40 et que vous pouvez nous contacter par mail à carapatage@riseup.net mais aussi par courrier au 4 Villa Stendhal 75 020 Paris. Et on a aussi un compte Insta où c'est possible de nous contacter @carapatage. Et vous pouvez retrouver aussi toutes ces informations sur notre blog carapatage.noblogs.org. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, nous faire des retours sur l'émission, nous, si vous avez envie de nous parler de quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous semblerait pertinent, intéressant à nous dire et qu'on pourrait passer dans cette émission. On va commencer par une brève sur ce qui se passe au Salvador.
Oui, alors je voulais commencer par parler de l'ouverture d'une méga prison au Salvador. Donc en fait, c'est une prison qui vient d'ouvrir et il y a 40 000 places. Donc c'est une prison qui est appelée le centre de confinement du terrorisme. Et ça va être la plus grande, et c'est la plus grande prison d'Amérique. Et elle vient de s'ouvrir dans le cadre de la politique judiciaire ultra répressive qui est menée par le gouvernement contre le trafic de drogue. Où en fait, il y a des arrestations massives ces derniers mois. Dans le cadre d'un état d'exception qui permet aux autorités les arrestations de suspects sans mandat judiciaire. Et donc en fait, en quelques mois, il y a 63 000 personnes suspectées d'appartenir au trafic de drogue qui ont été arrêtées. Et donc cette prison a été ouverte et le 24 février, il y a les 2000 premiers prisonniers qui ont été transférés. Et donc un peu, on peut trouver un peu des informations sur... les conditions de détention qu'il va y avoir dans cette prison. Donc c'est une prison qui va être avec une surveillance intense à la fois de caméras, de brouillage, surveillée par la police et l'armée, dans une région rurale isolée pour isoler encore plus les prisonniers qui seront incarcérés là-bas. Le travail va être obligatoire et en fait ça va être sous la forme de grandes cellules d'une centaine de mètres carrés où des détenus vont être entassés avec des couchettes métalliques, pas de matelas, pas le droit de sortir de cette cellule sauf pour les audiences judiciaires dans une salle de visioconférence. Et donc l'ouverture de cette prison, ça s'ouvre aussi avec un discours de à la fois les prisons actuelles sont surpeuplées, il faut construire toujours plus de prisons pour notamment enfermer toutes les personnes qui sont arrêtées ces derniers mois. Et il y a aussi une volonté d'instaurer un régime de détention qui est particulièrement dur et violent pour les personnes qui ont une qualification de terrorisme. Et du coup, on voit comment cette qualification, ça permet d'instaurer des régimes d'exception et de détention toujours plus difficiles.
Moi je vais parler de régimes d'exception plus anciens, moins modernes. Mais je voulais reparler un petit peu de la situation d'Alfredo Cospito, là, on vous en a déjà parlé dans plusieurs émissions précédentes. Et donc, il est toujours en grève de la faim. C'est vrai que je ne me rappelle plus, mais ça fait déjà plusieurs mois. Et là, il avait été transféré de Sardaigne à Milan. Et à Milan, il a été transféré à l'hôpital, avec qui a une section pénitentiaire. Il avait été retransféré en régime de 41 bis. Et là, il est retransféré à nouveau à l'hôpital. Il prend plus de compléments alimentaires. Et donc là, a priori, ça a atteint son système nerveux, en tout cas en périphérie. Et, mais il garde a priori toujours le moral selon son avocat. On reparlera un petit peu de sa grève de la faim au cours de l'émission, parce qu'on va parler aussi des grèves de la faim. Mais la solidarité, en tout cas, je voulais dire que la solidarité continuait. Il y a eu un attaque du local du Parti démocrate à Rome, qui n'est pas le parti au pouvoir, mais qui est le parti qui a laissé déjà mourir des personnes en grève de la faim en 41 bis. Il y a eu en France une banderole devant le consulat italien à Paris. À Berlin, il se passe pas mal de choses. Et il y a eu encore récemment, la semaine dernière, une manif. Et des attaques aussi, je crois, des incendies de voitures de flics. Pour revenir en France, il y a toutes les semaines des discussions à Toulouse et parfois des rassemblements. Il y a eu aussi une grosse manif à Turin en Italie. Et voilà un petit peu ce qui continue à y avoir comme solidarité avec sa grève de la faim, mais aussi pour la fermeture du régime du 41 bis. Et donc, à Paris, là, le 20 mars, lundi 20 mars, au local anarchiste Libertad, il y aura une discussion autour de la lutte qu'il y a en solidarité avec sa grève de la faim et avec le 41 bis. C'est à 18h, je crois. Et c'est rue Burnouf. Voilà. Et Alix, du coup, toi, tu vas nous parler de ce qui s'est passé au CRA du Ménil.
Ouais. Du coup, je voulais dire que le 2 mars... Il y a un mec qui était retenu au CRA du Ménil, donc le centre de rétention administratif et prison pour étrangers, qui savait qu'il allait avoir un vol bientôt pour être expulsé et qui du coup est monté sur le toit du CRA du Ménil, qui s'est automutilé, je ne sais pas exactement, mais a priori assez fortement, étant donné qu'il a été transféré à l'hôpital. Et qui s'est évadé de l'hôpital. Du coup, on espère qu'il va ne pas être rattrapé. A priori, il n'a pas été rattrapé jusqu'ici. Voilà. Et je vais faire aussi un petit point agenda. Du coup, il y a plusieurs manifs qui arrivent. Donc, le 18 mars, donc ce samedi, il y a deux manifestations. Donc, il y en a une qui est appelée par le réseau Entraide, Vérité et Justice, qui est un réseau qui regroupe des familles qui ont perdu un proche, soit tué par la police, soit tué par les matons, et qui appelle du coup à une marche contre les violences policières et pénitentiaires. Ça va partir à 14h de République. Et la seconde manif, c'est appelée par le collectif des travailleurs sans papier de Vitry. C'est une manif qui partira à 14h aussi de la gare Créteil-Pompadour pour se rendre vers le LRA, donc un local de rétention administrative qui est situé à Choisy-le-Roi. Donc ça, c'est pour le 18. Et le samedi suivant, le 25 mars, il y a une grosse manifestation qui est appelée contre la loi Darmanin et c'est 14h à République aussi le départ.
Et ben du coup on va faire une petite pause musicale et on va écouter Comme un jour de manif de Youri, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de manifs. Il faut que ça continue.
Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Je me lève chaque matin comme un jour de manif. Je me lève chaque matin comme un jour de manif. Je me lève chaque matin comme un jour de manif.
J'aimerais que tous les jours soient un jour de manif. Je me lève chaque matin comme un jour de manif. Je t'assure, la sauvage va faire le tour de la ville. J'ai vu des meufs énervées casser toute la rue et des petits hauts comme ça qui te goûment sa vie. Va à l'âge et t'écoutes ce que ça dit. Car à l'école, on s'en fout ce que t'as dit. Faut te bouger, t'es pas au bout de ta vie. Tu voudrais pas finir comme ce plouc raciste. On veut pas de boss, pas de vie de chameau. L'ordre et la loi, ça fait mal comme un tir de flashball. Ils épuisent le magot. Une pensée aux frères, ils ont pris dans le cachot. Non, faut pas dire que c'est du père d'avance. C'est pas du temps qu'on gaspille comme le budget de la France. Non, faut pas dire que c'est du père d'avance. C'est pas du temps qu'on gaspille comme le budget de la France. Comme ma maman, je suis pas capitaliste. J'ai moins l'argent aux nanas que je câline la nuit. C'est pas marrant de voir un ami partir dans le quart de ses stars à une manif. Ah oui. Ouais, dans cet état, on s'en fout de ta vie. Une entreprise vaut le double de ta vie. Ouais, dans cet état, on s'en fout de ta vie. On s'en fout de ta vie. Lapider les keufs, péter les banques. Brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques. Brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques. Brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques. Brûler les cravates et buter les patrons. Je me lève chaque matin comme un jour de manif, bitches. Je me lève chaque matin comme un jour de manif, fils de flic. Je me lève chaque matin comme un jour de manif. Aka, baka, baka. J'aimerais que tous les jours soient un jour de manif. Lapider les keufs, ils ont gazé les mômes, ils ont gazé les mères. Péter les banques, ils vont tirer vos fins de mois. Brûler vos cravates, trouver un autre travail. Buter les patrons qui ont usé les darons. 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 Lapider les keufs, ils ont gazé les mômes, ils ont gazé les mères. Péter les banques, ils vont tirer vos fins de mois. Brûler vos cravates, trouver un autre travail. Buter les patrons qui ont usé les darons. 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 Je me lève chaque matin comme un jour de manif, bitches. Je me lève chaque matin comme un jour de manif, fils de flic. Je me lève chaque matin comme un jour de manif. Baka, baka, baka. J'aimerais que tous les jours soient un jour de manif, bitches. Juste comme Poutine, gars comme Léonidas, bitches. Juste comme Poutine, gars comme Léonidas.
Vous êtes de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40 pendant l'émission. Et ben du coup là, on va commencer un peu à parler du sujet dont on voulait vous parler ce soir, c'est-à-dire le suicide en prison et un peu pourquoi on a voulu parler de ça à la radio. Parce que c'est quelque chose... qui est important en prison, qu'il y a 6 fois plus de suicides à l'intérieur qu'à l'extérieur. Que d'ailleurs, il y en a plus dans les prisons en France qu'en Union européenne, mais ça, on vous en parlera pas pourquoi. Peut-être parce qu'elles sont plus merdiques qu'ailleurs, mais bon, enfin, toutes les prisons sont merdiques quand même. Et voilà, ces chiffres un peu, ça inclut aussi les morts suspectes, qui sont pas... Enfin, les morts suspectes et les suicides. Mais aussi, on avait envie de parler... de suicides déguisés, que la paix qualifie de suicide, et en fait qui sont des violences de la paix, des matons. Et donc on a déjà fait une émission sur la santé en prison, sur le refus de soins, les morts lentes. On pourrait aussi évoquer les longues peines qui sont souvent dénoncées depuis l'intérieur et l'extérieur comme des peines de mort à petit feu. Mais voilà, là, on se disait que quand il s'agit vraiment d'un suicide, c'est quand même aussi la prison qui tue. Les conditions inhumaines, les peines sans fin qui mettent dans des situations de désespoir, le fait de ne pas avoir de visite, de lien social. Et aussi que un des trucs qui a été remarqué un peu récemment, c'est qu'il y avait encore plus de suicides dans les nouvelles prisons. Parce qu'en fait, les liens, ils sont encore. Il y a de moins en moins de liens possibles. Enfin, et ça a des avantages, des conforts, de ne pas avoir à demander, par exemple, pour prendre sa douche. Mais du coup, ça fait qu'il y a des moments où on peut se retrouver isolé. Et voilà, et du coup, comme je disais tout à l'heure, enfin, juste avant, il y a toutes les morts suspectes, les suicides déguisés par les matons et par la paix. Et voilà. Et du coup, et souvent, un des trucs aussi quand dans les médias ça parle de suicide en prison, souvent on entend la parole des matons. Enfin, il n'y a jamais ou très rarement Ouais, jamais, hein. Enfin, presque jamais. Peut-être on en parlera, c'est arrivé une fois, quoi. Enfin, récemment, où il y a la parole des proches, mais souvent, sinon, c'est la parole des matons qui disent oui, on n'a pas assez de moyens, gna gna gna. Enfin, la même histoire qu'ils disent pour tout, en fait, hein. Donc, ils le disent aussi pour ça. Et donc, voilà. Et du coup, là, nous, on va essayer de revenir un petit peu sur ce que ça représente, les dispositifs répressifs de l'administration pénitentiaire face au suicide. Un peu du suicide, voilà, comme conséquence de l'enfermement, aussi en tant que qu'acte de révolte, et après on parlera de voilà tout ce que l'AP qualifie de suicide et qui n'en sont pas, voilà. Et du coup Kate va nous parler un peu des différents de voilà des CRA et en prison un petit peu.
Oui, je voulais un peu revenir sur les chiffres sur le suicide en CRA et en prison, à la fois comment ils sont comptés et qu'est-ce que l'AP, ou d'où viennent les chiffres et qu'est-ce que l'AP met dans les suicides. Oui, du coup, en prison, il y a un décès tous les 2 ou 3 jours et il y a un décès sur 2 qui est classé par l'AP comme un suicide. Et donc, un peu pour se rendre compte, en 2020, il y a 119 personnes qui ont été déclarées mortes par suicide et 122 en 2021 dans les prisons en France. Avec notamment une partie de ces personnes qui sont suicidées, notamment dans les quartiers disciplinaires, qui est un endroit aussi où on suicide particulièrement. Ce que tu disais sur les prisons nouvelles, ça s'applique encore plus dans les quartiers disciplinaires où les conditions sont encore plus dures, les personnes sont encore plus isolées. Ce qui n'empêche pas la paix de placer au mitard des personnes suicidaires ou avec des antécédents de tentatives de suicide au sein de la prison. Et en fait, les chiffres qui existent sur le suicide, c'est des chiffres du ministère de la Justice. Mais en fait, les chiffres réels, ils sont plus élevés parce qu'en fait, la paix compte pas dans les suicides des détenus en permission ou en aménagement. Aménagement de peine, ou en tout cas ils sont comptés certaines années et pas d'autres. Ça compte pas non plus les suicides qui arrivent après la sortie de prison de prisonniers qui avaient déjà fait des tentatives de suicide à l'intérieur, alors qu'on sait que en fait les conséquences, on en parlera aussi plus tard, mais les conséquences psychophysiques de l'enfermement, en fait elles s'arrêtent pas à libération, elles continuent sur le long terme sur la santé des gens. Et il y a aussi à ces chiffres c'est enlever aussi ce que l'AP ne considère pas comme des suicides, mais comme des décès accidentels. Mais en fait, dans les décès accidentels, elle met notamment les personnes qui meurent par overdose de médicaments. Et alors qu'on peut penser que c'est aussi quand même un moyen de se suicider en tôle qui existe. Donc voilà, c'est un peu les chiffres qui sont donnés par le ministère de la Justice. Ils sont quand même un peu opaques et il n'y a pas de chiffres par prison. C'est un peu des chiffres qui existent pas trop. Et aussi c'est ce que comme tu disais pile, dans ces suicides on peut penser, enfin il y a aussi des ce que la PK qualifie de suicides et qui sont des suicides déguisés et des meurtres des matons. Et dans les CRA, il y a pas de chiffres officiels du nombre de personnes qui meurent chaque année en se suicidant dans les CRA. Il y a que des chiffres d'assaut qui font des décomptes qui eux font des décomptes et qui depuis 2007 il y a plusieurs assos qui comptent 6 suicides dans les CRA, mais en fait on peut penser qu'il y en a aussi plus qui sont passés sous silence, dont on n'a pas connaissance, parce que notamment par exemple en 2018 il y a eu 3 suicides dans les CRA, dont 2 personnes qui sont suicidées au CRA de Bordeaux. Et en fait un des 2 décès s'est sorti au moment d'une grève de la faim des détenus, où les détenus faisaient une grève de la faim pour protester contre l'allongement de leur incarcération à l'intérieur. Et c'est en faisant au moment de cette grève de la faim qu'ils ont réussi à faire sortir l'info, sachant que la personne était déjà décédée depuis un mois et que le CRA avait fait circuler aucune info avant ça. Et dans les chiffres aussi des suicides en CRA, ça compte pas non plus toutes les tentatives de suicide qu'il y a et toutes les tentatives de suicide, les hospitalisations pour automutilation. Et on en parlera aussi plus tard de comment les tentatives de suicide, l'automutilation, c'est aussi un moyen qu'ont les gens pour résister à l'expulsion, pour faire pression sur les flics. Et oui, et dans les suicides, il n'y a aussi pas comptabilisé toutes les morts qui sont aussi classées comme accidentelles, notamment quand les gens prennent font des overdoses de médicaments. Et on ne sait pas non plus ce qui arrive après quand les gens sortent, soit qu'ils se retrouvent libérés, mais avec des conséquences sur leur santé psy à long terme, parce que le CRA, c'est comme la prison, en fait, ça participe aussi à détruire ta santé physique, ta santé psy, et non plus ce qui se passe quand les gens sont expulsés et qu'est-ce qui se passe après. Voilà.
Ben, merci un peu pour cette observation des chiffres et tout. je propose qu'on écoute un peu de musique.
You would have us forget, you would have us make it easier, have us regret, you would never say her name. You would have us forget how the mothers pressure freed their sons and daughters caught in torture chambers. Talk about it. Yeah, we've always been great for a long time now, but you always debate for a long time now. What a woman should make, what a woman should take, but you never ask a woman what a basic mistake. Naona chenye mimi sitaduni kuagyu na mafala busy body like you. Wale wanafikiria sindiria ni weakness, ni better ni speak less, my actions more weakness. Keep saying not the right time, you keep telling us not the right time. You keep saying not the right time, you keep telling us not the right time. I'm my own. The whole picture getting loud, getting louder, getting loud, getting louder, getting loud, getting louder, getting loud, getting louder. Power, 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 sisi ndio power, watoto wa how, ndio sisi how. This time hatuchoki, this time hatogopi, pesa hatukopi, tena hatusoti. Umu kunishika kwanza jenga kasi vi. Mna pressure ya kumari bata tujiski. Mtabaki mukicheki, chinda mkidibeti. Kwenye ni nageti, pesa ya kibeti. Listen for the women who can be for us, who put the work for us, who make it work for us. Listen for the women who can be for us, who put the work for us, who make it work for us. I'm my own. The whole picture getting loud, getting louder, getting loud, getting louder, getting loud, getting louder, getting loud, getting louder. You would have us forget, you would never say a name, you would have us forget, you would never say a name, you would have us forget, you would never say a name, you would have us forget. Talk about it.
You have never been straight, you keep telling us wait, then you switch up the date to Mechoka. Then you tell us we hate one another, you blame us, you keep trying to shame us, to erase us.
On vient d'écouter Power de la rappeuse kényane Mutoni Drummer Queen.
Et on est de retour dans l'émission Carapatage jusqu'à 22h, je pense. Et on est toujours sur... on parle toujours du suicide en prison. Et Kate va nous dire un peu c'est quoi les mesures répressives qui sont mises en place par l'administration pénitentiaire pour lutter contre le suicide.
Oui, dans la paix, un peu dans sa prétendue lutte contre le suicide, elle a mis en place plusieurs mesures anti-suicide qui sont en fait des mesures répressives généralement. Donc en fait, les personnes qui sont repérées comme suicidaires, elles doivent bénéficier de ce qu'ils appellent un plan individuel de protection. Et en fait, dans les faits, ça vise à mettre en place des mesures répressives et de surveillance. Du coup, notamment le renforcement des rondes. Et donc il y a une surveillance qui... Donc il y a une intensification des rondes de nuit qui peuvent être toutes les deux heures et qui vont avec un contrôle à l'œil ton. Et ça peut être pendant plusieurs semaines et parfois même plusieurs mois. Et en fait, ça veut dire que dans la plupart des cas, la personne va être... On allume le bâton, allume la lumière, regarde à l'œil ton, regarde si la personne est vivante, demande à la personne de faire un geste. Ce qui fait qu'en fait, quand tu as cette mesure de protection, ben, tu es réveillé toutes les heures. Et t'arrives pas à dormir, ce qui en fait rend la situation encore plus insupportable. Donc il y a cette première mesure, et après il y a d'autres mesures qui ont été mises, d'autres dispositifs qui existent depuis 2019. Et donc il y a notamment ce qu'ils appellent la dotation de protection d'urgence et une cellule de protection d'urgence. Ça existe depuis 2009, et en fait c'est des mesures qui peuvent se compléter et qui peuvent aller ensemble. Et qui normalement sont réservés aux situations extrêmes, c'est-à-dire où ils pensent que la personne risque de se suicider. Et en fait, le premier truc, la dotation de protection d'urgence, c'est un kit qui est composé de deux couvertures indéchirables et résistantes au feu et de vêtements déchirables à usage unique pour éviter que les gens se pendent avec. Et la seconde, c'est en fait une cellule lisse où il y a le strict minimum dans la cellule. Il n'y a pas de point d'accroche. La télévision va être protégée par une bulle en plexiglas. Les meubles vont être avec des bords arrondis et vont être scellés au sol. Il n'y a aucun objet personnel pour éviter que la personne trouve un moyen de se suicider. Mais en fait, dans les faits, du coup, ça veut dire qu'en fait, on te donne un pyjama déchirable que tu peux déchirer au moindre mouvement, que tu es laissé seul en cellule dans une cellule qui est proche sur certains aspects du quartier disciplinaire, où tu peux pas forcément ouvrir la fenêtre. En fait, ça juste aggrave la situation et ça peut être encore pire pour les personnes qui sont placées dans cette situation. Et en fait, normalement, c'est des mesures qui sont pas censées durer plus de 24 heures et qui doivent s'accompagner après d'une prise en charge. En fait, généralement, après, les gens retournent en détention. Et en fait, c'est aussi ces deux choses. Ça va être aussi des fois utilisé par la paix comme des mesures de punition de manière disciplinaire. Et donc, par exemple, les cellules de protection d'urgence, parfois, elles peuvent utiliser un peu comme des mitard bis. S'il n'y a plus de place au quartier disciplinaire, enfin, il y a des cas de gens qui sont enfermés là-bas pour des raisons disciplinaires comme au mitard. Certaines mesures de la paix, c'est ça. Et il y a une autre mesure qui existe depuis 2010, c'est un peu les co-détenus de soutien, où en fait c'est des gens des détenus qui sont recrutés par la direction de la tôle et qui reçoivent une formation de 4 jours de la Croix-Rouge pour, en théorie, ils sont censés aller parler et repérer les détenus qui vont mal pour après faire remonter l'information. Et en fait, dans les faits, généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils sont placés en cellule avec des gens qui sont considérés comme suicidaires et du coup c'est eux qui doivent les surveiller et qui ont la charge de surveiller, de vérifier que la personne se suicide pas dans la cellule. Et donc en fait la paix, elle fait reposer aussi complètement la responsabilité sur les autres détenus. Elle se décharge sur les autres détenus et en fait c'est un peu ça les mesures de la paix, alors qu'en fait on sait que c'est l'enfermement qui détruit les gens, qui participe au fait que en fait les gens juste sont dans des situations insupportables et ont envie d'en finir, quoi.
Ouais, et je voulais rajouter sur les co-détenus de soutien, parce que je sais pas si c'est dans toutes les tôles ou pas, je crois que c'est que certaines tôles mais pas sûr. Et je sais qu'à Villepinte par exemple c'est aussi, genre, la paix qui va voir des détenus en leur disant qu'ils sont considérés comme plus stables et solides, et souvent ceux qui ont déjà un petit temps passé en détention, plus que la majorité des gens qui sont à Villepinte, et qui vont leur proposer de rentrer dans le programme de co-détenus de soutien, donc avec aussi un peu la carotte que être co-détenu de soutien, ben ça fait bien si tu veux des remises de peine après. Aussi avec un truc vraiment de faire reposer la responsabilité en disant on sait que toi ça va, il y a des gars ici qui vont pas bien, ils ont besoin de soutien. Du coup, si on va te faire une formation et tu pourras être en cellule avec eux et pense aussi aux autres, enfin en leur mettant enfin une forme de pression vraiment malsaine aussi enfin tu sais que l'incarcération c'est dur, t'es passé par là, toi aussi t'as eu des moments de bad hein, comme tout le monde je pense qu'il va en taule à un moment, et t'es le mieux placé pour réussir à soutenir quelqu'un en se déchargeant vraiment complètement de la responsabilité de en fait c'est eux qui enferment et c'est la souffrance elle vient pas de nulle part non plus quoi.
Oui, et un truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est que dans les co-détenus de soutien, ils sont censés avoir après des groupes de parole un peu pour échanger sur les situations qu'ils retrouvent et un peu genre eux comment ils gèrent ça. Et en fait, dans plusieurs tôles, les groupes de soutien, c'est assuré par des matons. Et c'est aussi pour un moyen de, en fait, de faire remonter des infos, connaître tout ce qui se passe en détention. Et c'est un moyen de pression aussi, quoi.
Ah ouais, c'est un moyen de pression et du coup ça fait que, comme tu disais, l'enfermement c'est dur pour tout le monde en fait. Et du coup, que ce soit, je sais pas, à court terme quand t'arrives en prison ou sur le long terme, ça peut être dur de résister psychologiquement et physiquement aussi aux conséquences d'être enfermé quoi. Et d'autant plus quand on sait que l'accès aux soins en prison, il est vraiment difficile, quoi. Voire des moments impossibles, en fait. Et ces conséquences sont aussi... elles continuent aussi après, en fait, l'enfermement. Et souvent, ça ne s'est pas pris en compte. On en a déjà parlé un petit peu. Et là, du coup, on voulait parler un petit peu de différentes situations où, justement, où avait été mise en lumière la responsabilité de l'enfermement de l'administration pénitentiaire de par son refus de ou son ouais son refus d'accès aux soins quoi vis-à-vis de personnes qui se sont suicidées et du coup ces situations elles sont souvent connues grâce aux proches ou grâce à des co-détenus qui ont dénoncé ces situations. Et souvent, s'il y avait personne qui avait fait sortir ces paroles-là, en fait, ce serait passé comme un énième chiffre, en fait. Mais où il n'y aurait pas une histoire qui va avec, etc. Et où la paix peut se dédouane à chaque fois de sa responsabilité, voire va la mettre sur d'autres détenus, quoi. Et du coup, on voulait... parler de la mort de Théo Sana à Fresnes, qui a été retrouvé mort dans sa cellule en novembre 2020.
Janvier 2020.
Ah, en janvier 2022, ouais, je me suis trompée, pardon. Et le jour où il passait en procès, il avait, a priori, il s'est suicidé et il avait déjà des difficultés, selon ses proches, je crois qu'il a été dit ou mis en avant comme des fragilités psychologiques avant son incarcération, mais que ses proches ont vu son état un peu se dégrader quoi pendant l'incarcération et ça a pas été pris en compte par l'administration pénitentiaire. Il y avait pas de place en CMPR, ce qui est l'unité de soins, ça c'est vraiment avec des guillemets, pour les personnes qui ont des problèmes psy. Et du coup, sa famille, elle met un peu en cause l'administration pénitentiaire dans ce suicide. Et dans une émission de L'Envolée en janvier dernier, on peut retrouver une lettre de sa veuve qui raconte un peu aussi pour elle comment elle a vécu. Sa mort.
Ouais, et ça. Enfin, ça montre bien. Enfin, dans le cas de Théo Sana, c'était très bien su qu'il y avait une dégradation de son état, qu'il allait pas bien. Et on voit bien le discours hypocrite de la paix qui tout le temps met en avant ben, ce que Kaït racontait tout à l'heure, toutes les mesures anti-suicide qu'ils mettent en place, alors que quand il y a quelqu'un qui va pas bien et qu'ils le savent, c'est pas pour autant qu'ils réagissent et qu'ils font quelque chose. Donc ça montre aussi un peu. Enfin, ça montre bien le côté poudre aux yeux qu'ils mettent ou ce qu'ils veulent, c'est faire baisser leurs chiffres. Et, mais en fait, la souffrance de la personne, la souffrance des personnes qui sont enfermées, ils ne la prennent pas en compte s'ils estiment qu'il n'y a pas de place ou si...
Voilà. Et du coup, ce côté-là, on le retrouve aussi en centre de rétention.
Oui, bah, en fait, en centre de rétention, c'est un peu la même chose, c'est les refus de soins. Et en fait, je voulais parler plus précisément de une lettre qu'avait écrit des retenus du CRA du Mélina Ablo pour en fait parler de la situation de détresse que vivait une de leurs co-détenues au Ménil, qui est sur le site de Abba les CRA et qu'on vous mettra sur le blog. Et donc, en fait, dans la lettre qu'ont écrit les personnes qui sont les personnes du CRA du Ménil, elle raconte que en fait c'est une femme de 60 ans qui va vraiment très très mal dans le CRA, qui voilà, ils disent que elle parle souvent toute seule, qu'elle a besoin de soins et que en fait l'administration du CRA lui fait signer des papiers que selon les autres personnes détenues dans le CRA, elle n'est pas en mesure de comprendre en fait ce qui joue dans les papiers qu'ils signent. Donc ouais, ils lui font signer ce qu'elles veulent, et qu'en fait les autres co-détenus ont essayé d'appeler le SAMU pour essayer de faire en sorte qu'elle reçoive des soins, qu'elle soit transférée dans un autre endroit que le CRA. Et en fait, le SAMU leur a répondu qu'ils ne peuvent rien faire si ce n'est pas le chef du CRA qui appelle. Et du coup, en fait, la personne reste du coup détenue dans cette situation où personne ne veut rien faire. Les matons du CRA, enfin la police du CRA refuse de faire quelque chose, voire est violent avec elle, se moque d'elle. Et donc voilà, elle dénonce un peu cette situation et le fait que en CRA il y a aucun accès aux soins, de manière générale il y a aucun accès aux soins, et qu'en fait c'est encore pire pour les gens qui rentrent déjà mal et fragiles dans ces lieux de détention.
Et sur les CRA, je voulais aussi parler de la surmédicalisation, parce qu'il y a pas mal de témoignages, enfin de retenues qui témoignent que on les bourre de médocs en CRA, et notamment beaucoup d'anxiolytiques, parce que on peut bien imaginer les gens. Ils ont pas mal d'angoisse. Déjà, ils sont enfermés, donc il y a toute la violence d'être enfermé, de ne pas être libre de ses mouvements, les violences des flics aussi qu'il peut y avoir en CRA, plus la peur de l'expulsion. Du coup, ça rajoute aussi une crainte d'avoir peur qu'on te foute dans un avion et qu'on te renvoie hors de France, quoi. Et du coup, les médecins, ils prescrivent volontiers pas mal d'anxiolytiques, histoire de calmer les gens. Et ça a aussi des effets, du coup, et des effets aussi à la sortie, parce que les anxiolytiques, en théorie, il faut baisser les doses petit à petit pour réduire les effets de manque. Et que là, les gens, quand ils sortent, ils ont été, pour certains, ils ont pris des grosses doses d'anxiolytiques pendant qu'ils étaient enfermés, et qu'à la sortie, ils se retrouvent brutalement en sevrage, quoi. Et ça peut entraîner plein de soucis d'addiction et toute la souffrance qui accompagne les soucis d'addiction. Voilà, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que L'enfermement, c'est pas juste le moment où t'es enfermé, c'est aussi, enfin c'est pas à un moment t'es enfermé, à un moment t'es libre, mais il y a des répercussions après aussi, tu peux garder des répercussions sur la suite de ta vie et l'enfermement ne s'arrête pas le jour de la sortie, quoi. Et je voulais lire un petit extrait du coup d'un texte qui s'appelle Le juge, le flic et le médecin, qui est aussi disponible sur le site Abalekra et qu'on mettra sur notre blog. Je vais lire un petit extrait. En CRA, on fabrique des toxicos, nous a dit Hassan. À sa sortie, il est brutalement passé de haute dose de Valium à rien du tout et il a dû gérer tout seul pendant plusieurs semaines les souffrances liées à ce sevrage sauvage, ce qui l'a poussé à une forte consommation d'alcool. La destruction psychologique fait partie de la logique du CRA et ses effets continuent bien après la fin de l'enfermement. On entend souvent dire que les gens deviennent fous en CRA. Entre le harcèlement des flics, la bouffe dégueulasse, la saleté et la crainte permanente d'être emmené de force dans un avion, la santé mentale est mise à l'épreuve au quotidien. Dans ces conditions, médecins et flics travaillent main dans la main pour briser toute tentative de rébellion. Les uns frappent, les autres sédatent. Du coup, voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de partager du coup, sur la médicalisation en CRA.
Et du coup, dans un autre... en prison, c'est pareil, en fait. Je pense qu'il y a aussi le médicament facile, enfin, le médicament de quand t'arrives en prison, qu'on va te proposer directement si t'as besoin de cachets pour dormir. Enfin, que c'est hyper... C'est une solution... assez facile de gérer les problèmes, quoi. De proposer des médicaments... des médicaments. Et du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Alix, la carcération, effectivement, elle s'arrête pas... les conséquences s'arrêtent pas au moment où tu sors. Et il y a un témoignage dans une émission de février, dans Le Volet, il y a une personne qui est venue parler de ce qui arrivait... Patricia, qui est venue parler de ce qui est arrivé à sa fille Charlotte, qui a été incarcérée, et qui a développé des troubles psychologiques pendant l'incarcération. Et que, selon sa mère, elle s'en est rendue compte un peu en allant au parloir. À sa sortie, en fait, ça a été hyper dur pour Charlotte de se retrouver dehors. De revivre, enfin de continuer à vivre son incarcération. Et elle s'est retrouvée hospitalisée en HP suite à une agression dans la rue où elle a été jugée irresponsable de ses actes. Et à l'hôpital psychiatrique, elle a subi des maltraitances. Elle a pris des médicaments qui lui ont créé des douleurs. Et pendant une de ses permissions de sortie, elle s'est suicidée. C'est permettons de sortie de l'hôpital psychiatrique. Et voilà, on avait envie de relayer déjà cette histoire, ce témoignage, et que pour nous, ça montrait bien en fait que la prison, elle continue après, et que ça marque, que ça marque, quoi. C'est pas que le moment de l'enfermement, mais ça marque son corps, son esprit, mais aussi tous les proches... qui accompagne les personnes qui sortent, quoi.
Et ça montre aussi les violences en HP. Enfin, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, il me semble, de la situation en HP, mais aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur la prise en charge psy à l'extérieur également, pas que en tôle, de qu'est-ce qui est proposé à la personne, qu'est-ce qui est proposé à la famille. Enfin, là, dans le cas de Charlotte, c'était une hospitalisation sur demande d'une décision d'un juge. Mm-hmm. Mais aussi, en règle générale, quelle réponse est apportée aux personnes qui ne vont pas bien et qui, par moments, font plus de dégâts que soulager cette souffrance, quoi.
Et que du coup, le soin qui n'a pas été apporté en prison, il n'est pas non plus apporté en HP, parce que l'HP, c'est aussi... là, elle est enfermée de force dans cet HP, quoi. On écoute un petit peu de musique.
quemar algo para quemar, hacerte un fueguito en lo donde sea, una velita. Así que, así bueno, que fíjate bien qué quieres quemar.
El deseo, lo que pasa entre nos, te gusta bailatelo. Es del pueblo, este ritmo gózalo, yo quiero bailármelo.
On vient d'écouter Movimiento Social El Deseo de Sarah Ebe. Et on est dans l'émission Carapatage, contre toutes les cages, contre tous les enfermements, toutes les prisons. Et on est sur Radio Libertaire 89.4. Et vous pouvez nous écouter en direct jusqu'à 22h. Et du coup, là, on parle du suicide en prison. Et en centre de rétention aussi. Et là, on voulait parler un peu plus de révolte et de comment, quand on est enfermé, parfois, ce qui peut être que, en fait, comme moyen de se révolter, de lutter contre ce qui nous arrive, c'est mettre en jeu son corps, sa vie. Et surtout dans un espace qui réprime la plupart des tentatives de lutte, ou signer une pétition, ça peut être réprimé, ou dans un espace qui individualise aussi beaucoup, où on est chacun seul face à sa peine, à l'administration des pénitentiaires, où on n'a pas beaucoup, où c'est difficile d'avoir des liens avec l'extérieur et du coup des soutiens à l'extérieur. Et voilà, du coup, on avait envie de développer un peu plus ces situations où des personnes se sont mises en jeu, où ils continuent d'ailleurs à se mettre en jeu de différentes manières.
Alors moi, je vais parler un petit peu de ce qui se passe en CRA. Donc en CRA, il y a pas mal de grèves de la faim et d'automutilations, et notamment pour essayer d'éviter l'expulsion. Donc ces grèves de la faim, elles peuvent être soit collectives, soit individuelles. Voilà, ça va jusqu'à des automutilations de retenue qui peuvent pardon, avaler des trucs comme des lames, des rasoirs, des piles, des coupombles. Et du coup, c'est à la fois une certaine forme de désespoir face à sa situation, mais aussi la tentative d'avoir un médecin qui va déclarer que l'état de santé est incompatible avec l'expulsion et la rétention. Donc du coup, on voit bien que c'est ça tellement dur la perspective de l'expulsion et le fait d'être enfermé, que du coup, les gens ils sont prêts à mettre leur corps et leur vie en jeu pour essayer d'éviter l'expulsion et de sortir du CRA. Et du coup, dans tout ce truc, il y a aussi... les JLD, donc les juges de la liberté et la détention, c'est le juge qui va décider de prolonger la rétention ou de faire sortir la personne. Et du coup, les gens, ils essayent d'amener souvent des certificats médicaux pour montrer que leur état, il n'est pas compatible avec le fait d'être enfermé ou pour qu'ils ne sont pas en état de prendre l'avion et donc d'être expulsés. Les JLD, généralement, ils s'en foutent de ces certificats. Et il y a, il y a les juges et les médecins qui vont se renvoyer la balle. Par exemple, des médecins qui disent que eux, ils sont incompétents pour dire si l'état de santé elle est compatible avec la. C'est, par exemple, il y a des médecins du CRA qui vont dire « Non, c'est au médecin de l'OFI de statuer, c'est pas à moi. Moi, je suis capable juste de dire si l'État il est compatible avec l'expulsion, mais c'est pas à moi de dire si l'État il est de santé de la personne est compatible avec la rétention ou non. » ça peut être un exemple de comment... y a des gens qui se renvoient la balle et du coup le juge souvent il va s'appuyer sur si le médecin il dit qu'il est incompétent, ça veut dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité, que la personne elle peut rester enfermée, que son état de santé il n'est pas si préoccupant, alors que personne n'a dit que l'état de santé de la personne il était bon pour rester en rétention, mais il s'appuie sur le fait qu'il n'y ait pas de certificat précis pour garder la personne enfermée. Et de toute façon, des fois, ils s'en foutent tout simplement, quoi. Et oui, il y a pas mal d'actes d'automutilation, comme je disais, dans les CRA. Et souvent, les flics, ils vont pas appeler les secours, alors qu'ils savent très bien qu'il y a un retenu qui a avalé quelque chose et que du coup, il y a un danger clair pour sa santé où ça peut quand même très mal finir. Ils s'en foutent, c'est pas pour autant qu'ils vont appeler les secours, et les gens ils sont laissés au CRA avec des fois une lame dans le ventre, et c'est les autres retenus qui vont finir quand ça se passe mal par appeler les secours. C'est pas rare que ce soit d'autres retenus qui appellent les secours s'ils voient que l'état de santé de la personne se dégrade et que la situation ça commence à devenir vraiment inquiétant. C'est un truc qui est connu dans les centres de rétention que c'est souvent les retenus qui appellent les secours et pas les flics, quoi. Et ça montre bien à quel point être enfermé et ce qu'on fait aux personnes, la souffrance que ça provoque pour qu'il y ait des personnes qui soient prêtes à avaler des lames pour essayer d'échapper à la situation dans laquelle ils sont, quoi. Enfin, c'est quand même pas un petit truc.
Non, tu mets ta vie en jeu, quoi. Et du coup, toi, tu voulais parler un peu de personnes qui ont fait la grève de la faim en prison.
Oui, je voulais un peu continuer sur les grèves de la faim en prison, comme aussi voilà, un moyen de lutte, de contestation qu'utilisent les gens en mettant ben, leur santé aussi en jeu. Et un peu juste sur comment ça se passe, comment c'est censé se passer dans la tôle quand un détenu est en grève de la faim. En fait, quand il y a un ou une prisonnière qui se déclare en grève de la faim et ou de la soif, ou alors qu'un maton constate qu'une personne refuse de s'alimenter, le chef d'établissement de la tôle, il doit faire une déclaration à l'unité sanitaire pour qu'en fait la personne soit suivie médicalement. Et après, au-delà de 48 heures, il doit informer les autorités judiciaires administratives ou alors la direction centrale de l'administration pénitentiaire. Mais en fait, ça arrive que les matons préviennent pas l'unité sanitaire, ce qui fait que les détenus sont en grève de la faim et ou de la soif et ils voient leur santé se dégrader rapidement, sans aucun suivi non plus. Et donc, c'est aussi ce qui s'est déjà passé, notamment au Baumettes. En 2017, il y a eu une grève de la faim et de la soif de Sami Miou et Abdelhalim Trazibi à la prison des Baumettes. Et en fait, ils ont commencé une grève de la faim et de la soif. Pendant cette grève de la faim et de la soif, les matons leur ont en plus délibérément coupé l'eau et retiré le frigo de leur cellule en pleine canicule, aussi pour leur mettre la pression sur le fait qu'ils faisaient une grève de la faim pour protester contre leurs conditions d'enfermement. Et en fait, ils ont vu un médecin, mais pas directement, ce qui fait que voilà, ils étaient dans aussi, ils avaient aucun suivi. Et c'est arrivé une autre fois, pareil au Baumettes, quand un des deux détenus, Samy, a refait une grève de la faim. Et en fait, il a mis c'est 13 jours après le début de sa grève de la faim qu'il a vu pour la première fois un médecin, quoi. Et après, je voulais un peu parler d'autres grèves de la faim, notamment la grève de la faim, reparler un peu de la grève de la faim de Libreflow. En fait, on a déjà parlé un peu de Libreflow dans des émissions précédentes. Il a commencé une grève de la faim le 27 février 2022 pour protester contre son incarcération et son placement au quartier d'isolement dans le cadre de l'affaire des inculpés du 8 décembre. Où cette personne avait été arrêtée pour une prétendue association de malfaiteurs en vue de commettre ce qu'il qualifie des actes terroristes. Et en fait, il a commencé une grève de la faim et dans un message qu'il avait dit au bout de 17 jours de grève de la faim, il raconte un peu que en fait, le régime de l'isolement, ça a déjà laissé des séquelles sur sa santé physique, sa santé psychique et il dit dégradation pour dégradation, séquelles pour séquelles, autant que ce soit mon choix quand il parle de sa grève de la faim. Et après, il a continué sa grève de la faim qui a fait que le 24 mars, il a été hospitalisé à l'hôpital public de santé nationale de Fresnes. Donc c'est un hôpital prison et où il était toujours au statut d'isolement et il restait 24 heures sur 24 dans sa cellule hôpital, quoi. Et donc il a continué sa grève de la faim. Et après le 29 mars, l'administration pénitentiaire, elle avait levé son régime d'isolement, mais il avait décidé de continuer encore sa grève de la faim parce qu'il demandait aussi la fin de son incarcération. Et il a fini sa grève de la faim le 7 avril. Le 4 avril. Et le 7 avril, il a été libéré pour raison médicale où il a été après transféré dans un hôpital civil et plus dans un hôpital relié à la paix. Donc je voulais un peu revenir sur cette grève de la faim et comment ça s'était passé cette grève de la faim. Et aussi dans les grèves de la faim, je voulais parler de Alfredo Cospito. Donc pile on a parlé au début de l'émission rapidement dans les brèves et on va lire un extrait de sa dernière lettre qu'il a écrite. Parce qu'il est toujours en grève de la faim, il a écrit une lettre. Et juste avant, je voulais juste dire que, l'État italien, la Cospito est toujours en grève de la faim, et qu'en fait, l'État italien a déjà laissé mourir plusieurs détenus de grève de la faim ces dernières années, notamment trois détenus, trois détenus, un indépendantiste sarde en 2017 qui s'appelle Salvatore Meloni et deux détenus de droit commun, Gabriele Milito en 2018 et Carmelo Caminiti en 2020. Notamment le dernier, Carmelo Caminiti, il faisait une grève de la faim dans une prison, dans la prison de Messina, pour demander une assignation à résidence parce que son état de santé, en raison de ses conditions de santé, et notamment pendant l'épidémie du Covid. Et en fait, il est mort après, l'État italien l'a laissé mourir après 60 jours de grève de la faim. Et voilà. Et du coup, Pile, tu vas nous lire un extrait de la lettre de Alfredo Cospito.
Ouais, qui est environ son 150e jour de grève de la faim. La lettre, elle date de janvier. Elle a été rendue publique là, juste là, début mars. Et je lis vraiment trois petites phrases, quoi, dont la phrase introduction et celle de fin. Ça commence comme « Ma lutte contre le 41 bis est une lutte individuelle en tant qu'anarchiste. Je ne fais pas de chantage et n'en accepte pas. Tout simplement, je ne peux pas vivre dans un régime inhumain comme le 41 bis. » Où je ne peux lire librement ce que je veux. Livres, journaux, publications anarchistes, revues d'art scientifique, de littérature et d'histoire. Aujourd'hui, je suis prêt à mourir pour faire connaître ce monde, pour faire connaître au monde ce qu'est vraiment le 41 bis. 750 personnes le subissent en silence, monstrifiées en permanence par les masses médias. Je suis convaincu que ma mort constituera une entrave à ce régime et que les 750 personnes qui le subissent depuis des décennies pourraient vivre une vie digne d'être vécue. Quoi qu'elles aient fait. J'aime la vie, je suis un homme heureux, je ne voudrais changer ma vie contre celle de personne d'autre. Et c'est justement parce que je l'aime que je ne peux accepter cette non-vie sans espoir. Voilà, et ensuite il remercie toutes les personnes solidaires. Voilà. Ça montre un peu aussi ça dit un peu pourquoi une grève de la faim... c'est une lutte qui peut amener à la mort, mais c'est aussi une lutte pour la vie, pour pas accepter les conditions dans lesquelles on réduit un peu à néant les personnes enfermées, quoi. Et du coup, moi, je voulais un petit peu parler des incendies de cellules. En fait, il y en a quand même énormément chaque année. Souvent on va lire que des détenus se sont suicidés en mettant le feu à leurs cellules. Nous ici, on n'est pas là pour dire, les intentions des personnes, quoi, mais. Ou de juger des intentions des personnes, mais en tout cas, quand on est enfermé à l'intérieur, on est hyper dépendant de l'administration pénitentiaire, des matons, et la dépendance, elle est encore plus forte quand on met le feu à sa cellule. Donc très clairement, il y a un acte de désespoir, quoi. Et alors souvent, quand il s'agit de mettre le feu à sa cellule, que ce soit accidentel ou volontaire, les matons, ils vont tarder à intervenir, les pompiers aussi, à être appelés. Et souvent, ça peut être... C'est des situations qui sont encore plus particulières qu'à l'extérieur, parce que t'es enfermé, qu'une part des incendies vont être aussi liés... peuvent être aussi liés à des installations défectueuses, mais aussi, dans plein de prisons, tout ce qui est genre sécurité incendie... c'est quasi... à plein d'endroits, il y a un peu des... normalement, ils doivent faire des mesures, tous les ans, savoir si le système est en bon état. Et en fait, dans plein de prisons, il n'est pas en bon état. Mais il n'est pas forcément mis aux normes. Il n'y a pas, de trappe de désenfumage. Il n'y a pas de... une alarme va sonner au mauvais endroit. Et il y a plusieurs récits qui racontent un peu ça. Mais aussi, ça a été... le cas, par exemple, à la santé, il y a quelques années, où en fait, les matons, ils voulaient pas ouvrir... Il y avait un incendie, et ils voulaient pas ouvrir une porte. Donc les pompiers ont dû faire le tour de la prison pour rentrer par l'autre entrée. En fait, pendant ce temps-là, la personne, elle est... il y a le feu dans sa cellule, et en fait, l'intervention, elle se fait beaucoup plus lentement. Et du coup, ça, on parle de la santé, la prison de la santé rénovée. Et du coup, la nouvelle prison, quoi. Du coup, on peut se dire que les nouvelles prisons, ça n'a pas amélioré le système de sécurité incendie, quoi. Et du coup, bah, après la rénovation de la santé, il y avait deux personnes qui sont mortes en cellule suite à un incendie. Et aussi, ça s'est produit à Villepinte, la prison de Villepinte, plusieurs fois, en 2015, mais aussi en 2020, où une personne décide de mettre le feu à sa cellule après qu'on lui ait supprimé son parloir, parce que les matons ont trouvé un téléphone après son parloir, quoi. Et directement, la personne est supprimée de parloir et placée à l'isolement. Aussi parce que c'était pendant le Covid, donc il y avait interdiction de se toucher, donc double mesure répressive, quoi. Et voilà. Aussi, un des seuls moyens, en fait, d'appeler quand il y a le feu dans ta cellule, c'est l'interphone. Mais qu'à plein d'endroits, les interphones, ils sont défectueux. Et du coup, là, il va appeler au secours, les autres prisonniers vont aussi appeler au secours et les matons vont mettre genre une heure à arriver. Et les autres prisonniers vont pas être sortis de leur cellule et du coup hyper enfumés, devoir se débrouiller tout seul pour pas être intoxiqués par les flammes, enfin pas par les flammes mais disons par la fumée, quoi. Et ça arrive aussi souvent en fait, c'est pas forcément, enfin que de pouvoir mourir suite à l'intoxication par les flammes, quoi. Par les fumées, pardon. Et
on imagine aussi le stress, quoi. Hein, t'es enfermé, t'as pas de moyen de sortir et tu vois de la fumée qui arrive et en fait, t'es vraiment livré au bon vouloir de la paix, quoi.
Et suite à cet incendie, du coup, il y a des co-détenus qui ont fait sortir un texte pour raconter voilà, comment ça avait été lent, etc. Mais aussi comment... pour eux, ça avait été hyper violent et hyper dur d'entendre la personne, en fait, appeler à l'aide et qu'il ne se passe rien, quoi. Et ils ont aussi fait sortir des vidéos de l'intérieur, quoi. Et en fait, en février 2022, il y a eu un nouvel incendie mortel à Villepinte, où la famille, elle a été prévenue par les autres détenus. Pendant l'incendie, les matons ont été alertés par les détenus. Et voilà, comme l'incendie précédent, les pompiers ont tardé à arriver. Comme souvent, en fait, quand une personne est gravement blessée ou au bord de la mort et du coup transférée à l'hôpital, en fait, l'administration pénitentiaire continue à faire chier les proches et les empêche d'accéder pour voir la personne, et du coup met des limites de temps, voilà, comme un parloir, et empêche les autres proches qui n'ont pas de parloir de voir la personne qui est quasiment en train de mourir, quoi. Et du coup, suite à cet incendie, en fait, les proches ont mis en cause la paix, et ont fait un rassemblement devant la prison, pour que ça se passe pas en silence, quoi. Et je voulais aussi vous parler de l'histoire de Boris, qui en août, on en a déjà aussi parlé dans cette émission, et en août 2021, alors qu'il attendait la date de son procès en appel, il va être gravement blessé dans un incendie de sa cellule. Donc voilà, il y a toujours une instruction sur l'origine et sur la promptitude des matons à le laisser suffoquer dans sa cellule, quoi. Et donc, suite à cet incendie, l'administration pénitentiaire a rendu difficile des visites pour lui, de ses proches, etc. Ensuite, c'est la justice qui a mis un petit peu des bâtons dans les roues pour pouvoir aller le voir pendant qu'il était hospitalisé, etc. Et maintenant... Boris, il est plutôt un peu aux mains du pouvoir médical. Et il a besoin d'un fauteuil roulant adapté. Et du coup, il y a des personnes qui ont mis en place une collecte de thunes pour qu'il ait accès à un fauteuil roulant. Et du coup, on mettra le lien sur le blog. Mais du coup, il y a voilà, un petit texte qui explique un peu sa situation et combien il y a besoin de thunes, quoi. Et voilà, ça s'appelle un fauteuil de compète pour Boris. Et voilà. Et du coup, c'était un peu les différents trucs que je voulais raconter autour des incendies. En vrai, il y en a énormément et enfin énormément qui tue aussi chaque année en prison, quoi. Ben, on va écouter un petit peu de musique.
Moi je déteste les règles, moi je réponds à la maîtresse. Donc le soir papa me réveille, je rêve de porter toutes les Nike et du textile à coups de paye. Pas trop concentré, je préfère rêver, ça coûte moins cher au fond de la classe. Je comprends pas pourquoi la prof ne m'aime pas. Est-ce que je suis trop bronzé ou est-ce que 15 ne suffit pas? Et moi les maths j'ai pas compté, j'ai eu un toute l'année. Alors en lettre je voulais aller parce que je savais que gratter. Moi à 16 ans je passe le baf, à première paye j'achète une baffe. Premier mec je me mange une baffe, donc l'amour moi j'ai vite lâché. Avec le temps moi j'ai changé. Avec le temps, je t'ai observé. J'ai vu des choses qu'il fallait pas voir. J'ai dit des choses qu'il fallait pas faire. Au fond de moi, les choses se délient. Quand je me pose, je suis comme en tennis. Même si je t'envoie la balle, c'est dans mes mains carré à terre. Je veux tenir les rênes. Dans tous les cas, ça va trop vite. Je voulais devenir une reine, je veux pas le trône, je veux que le treillis. Par un an militaire, moi et mes amis, ça va très vite. Passe ta première, baisse pas la vide quand tu vois passer le képi. À 3 du mat dans l'auto, j'ai faim, je roule vers besoin. Je suis dans un bail de McDo, je suis dans une humeur breuse. Il me faut mon gabana. Dans mon cabanon, je me sens comme Guevara. Je voudrais le médaillon. Je vais pas en boîte, moi. J'sors même pas de la mienne. Rien que tu critiques ma vie, mais est-ce qu'on en parle de la tienne? J'entends la gimmick, j'vois le hit. Ils comprennent même pas le titre. Dans leur tête, c'est que des chiffres. Algorithme défonce la rythmique. J'veux pas la gloire, j'veux que le micro gros. Qu'on se le dise, qu'y'ait pas de quiproquo. J'suis dans le coin, pas dans le sirocco. Et si tu me provoques, moi j'peux te siroter. Et poto qui boitine, la sécheresse, on la connaît. On a mis les mains. Tu me détruis, je te rejette, la douleur prend sa pose, remplacée par le regret. J'ai voulu aimer des gens qui eux-mêmes se détestent. Pourquoi rester, pourquoi donner, pourquoi se casser la tête? 5 heures je me lève, c'est moi la boulangère. Je suis dans le four, y'a pas de courant d'air. Je te sens pas, je te ressens pas. En vrai c'est pas que je t'aime pas, mais tout ce que tu fais, tout ce que tu dis ne sonne pas. Y'a trop de mythos, c'est inquiétant. Moi toute ma vie je suis inquiété, pas endetté, pas embêté. Trop entêté, pas entêté, moi. Je prends tout le temps qu'il me faut, moi. Je suis pas stressé comme toi. Redonne-nous toutes les cartes. Celles qui disent non, comme mamie elle aurait dû dire oui. Je fais du bruit sans dire de prénom. J'ai perdu 3 années, j'en regagne 8. Je prends la vie comme elle se démontre. C'est comme ma mère jamais contredire. Je suis toujours dans la chop, dans le bendo. Je suis toujours dans les jazz, dans le tempo. Moi, je suis toujours dans la chop, dans le bendo. Je suis toujours dans les jazz, dans le tempo. Moi, je suis toujours dans la chop, dans le bendo.
Vous êtes de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages, en direct pour encore un quart d'heure sur 89.4 FM. Et vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur carapatage.noblogs.org. Toutes nos émissions précédentes et à venir aussi. Du coup, maintenant, on va vous parler de tout ce que la paix, de toutes les morts que l'administration pénitentiaire qualifie de suicide.
Ouais, et il y a des proches qui, euh, qui par moments porte plainte ou cherche à savoir la vérité sur les circonstances du décès de la personne incarcérée qui vont souligner la négligence de la paix. Donc ça, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure, où ils vont tarder à intervenir dans le cas d'un incendie, ou alors où ils vont ne pas faire attention à l'état aussi de santé de la personne et aux souffrances qu'elle peut ressentir. Et donc, du coup, qu'ils vont souligner à la fois la négligence de la paix et à la fois les suicides déguisés. Du coup, ce qu'on appelle suicide déguisé, c'est les violences où, en fait, la personne... les meurtres des matons, quoi, où les matons vont tabasser et vont après faire croire à un suicide de la personne pour se couvrir. On a déjà parlé des violences en détention dans d'autres émissions à Carapatage, donc à savoir que la violence des matons, contrairement à ce qui va être dit par l'AP ou ce qui va être dit dans les journaux souvent, c'est pas des violences, juste des bavures individuelles, quoi. C'est pas juste la pomme pourrie. Ah, ce maton-là, il est violent. On savait pas qu'il y avait des matons violents dans la prison. Mais c'est aussi un système qui sert à maintenir l'ordre en détention, à la fois de commettre des violences de la part des matons et à la fois que les gens à l'intérieur savent très bien qu'ils sont aux mains de la paix, quoi, et que il y a plein de matons violents et que du coup ça risque de leur tomber dessus. Et dans les cas de violence, on sait très bien aussi que les matons, ils vont se couvrir les uns les autres. Il y a de plus en plus de procès contre des violences de matons de plus en plus de procès qui dénoncent les cas de violence. Et quand on voit ces procès, il y a plein de moments où ça montre comment, en fait, plein de gens étaient au courant, côté maton, je parle, qu'il y avait eu des violences, mais qu'ils vont se taire, qu'ils vont rien dire. Et où ça entraîne ça aussi de savoir qu'ils vont être couverts par leur hiérarchie, quoi. Ces violences, elles sont souvent commises à l'abri des caméras, puisque du coup, les matons savent où sont les caméras dans la détention. Du coup, généralement, ils vont faire attention d'emmener la personne un peu à l'écart pour pouvoir la tabasser sans que ça se voit. Et quand la personne décède, là, ils vont dire que c'est un suicide. Et il y a plein de cas, notamment de détenus qui vont dire ils ont vu telle personne qu'on a retrouvée morte au QD, qu'ils ont vu la personne se faire tabasser par les matons avant qu'elle soit placée au QD et qu'elle a été placée au QD après. Et le QD, c'est encore plus à l'abri des regards, quoi. On sait encore moins ce qui s'y passe, comme c'est séparé du reste de la détention. Et du coup, c'est encore plus facile pour eux de commettre des violences là-bas, quoi. Et du coup, pour quand les proches ils dénoncent ces suicides déguisés, c'est hyper important les témoignages aussi des autres détenus, et parce que c'est aussi ce qui va un peu permettre de savoir ce qui s'est passé, quoi.
Et ça a été le cas à Seyss, où c'est il y a Jawad qui est mort au Mitard, au quartier disciplinaire, et les matons ont tout de suite dit que c'était un suicide, mais ses voisins de cellule ont aussi tout de suite dit que c'était un meurtre qui était maquillé en suicide. Dans ce QD à Seyss, il y a une équipe de matons quand même qui est surnommée l'escadron de la mort, et qui régulièrement tabassent des personnes et violentent des personnes, enfin des prisonniers au Mitard. Et d'ailleurs, un an plus tard, il y a eu une autre personne, Jules, qui est morte au Mitard de Seyss sous les coups des matons. Il y a eu une autre histoire similaire ailleurs. Il y en a d'autres ailleurs, mais par exemple à Fleury, il y a Lucas qui est décédé en juillet 2018, qui devait sortir en septembre. Et voilà, les matons vont dire que c'est un suicide. Et en fait, deux jours après la version des matons, les détenus qui l'ont vu se faire tabasser par les matons vont bloquer la promenade pendant quelques heures jusqu'à l'arrivée des Eris. Et du coup, elles vont se retrouver aussi au mitard. Le lendemain, il va y avoir un rassemblement devant la tôle avec une centaine de personnes. Alors là, tout de suite, les matons parlent de prise d'otage, alors que voilà, il s'agit d'une centaine de personnes dans une prison. Enfin, il va y avoir une marche blanche et aussi un deuxième rassemblement, voilà, qui met en cause la paix, l'administration pénitentiaire. Et en fait, c'est important d'un côté à chaque chose qui se passe, enfin à chaque meurtre déguisé en suicide, les matons vont donner leur version. Et c'est cette version souvent qui va sortir, et c'est important que leur version elle soit pas, qu'il n'y ait pas que leur version, de ne pas laisser un meurtre se passer en silence et montrer qu'il y a d'autres cas. Et ça, c'est un peu dans, c'est aussi ce qui s'est passé suite à la mort de Jawad, où il y a eu plusieurs nuits d'émeutes dans des quartiers à Toulouse, il y a eu des rassemblements, il y a des textes qui sont sortis depuis l'intérieur. Et voilà, un peu pour ces histoires, et se dire que voilà, il y a des fois des manières de qu'il n'y ait pas que la version des matons, quoi, et que les proches se battent. Et d'ailleurs, c'est le cas de Alassane Sangaré, qui est mort à la maison d'arrêt de Fleury.
Oui, c'est ça. Et en fait, des fois, dans les meurtres des matons qui sont déguisés en suicide par la paix, un des enjeux aussi, ça va être d'avoir les dossiers médicaux des personnes qui sont décédées, d'avoir accès à l'autopsie qui est faite. Et en fait, souvent, les dossiers médicaux, ils vont être durs à obtenir. Les autopsies, elles vont être difficiles à obtenir. Ou alors, il va y avoir des autopsies suspectes. Il y a des proches qui sont passés par là qui conseillent aussi deux fois de demander une contre-autopsie, parce qu'en fait, la plupart du temps, il y a des autopsies suspectes qui vont leur valider cette version de la paix et du coup donner un poids à la version de la paix, alors que les proches, ils voient que c'est... Enfin, ils voient sur le corps de la personne qui est décédée que c'est sûrement pas ce qui s'est passé, à la fois parce que c'est ce qu'ils voient et à la fois suivant ce que disent les autres personnes dans la prison. Et du coup, je voulais reparler un peu de Alassane Sangaré. On avait déjà parlé aussi dans des émissions précédentes. Donc, il est décédé le 24 novembre à la maison d'arrêt de Fleury, 5 jours après son incarcération en détention provisoire. Donc, il était au quartier des arrivants. Il y a eu une altercation violente avec des matons qui l'ont placé dans une cellule où tout était scellé au mur. Et en fait, où il a été retrouvé mort. Et donc, la paix dit que c'est un suicide et qu'il se serait suicidé avec le fil d'un téléphone fixe. Ce qui est déjà techniquement impossible. Et sa famille, en voyant le corps, a dit que voilà, il y avait des traces de tabassage sur son corps. Et donc, ils ont demandé l'autopsie qui a été faite par l'Institut de médecine légale de l'Essonne. Mais en fait, l'Institut de médecine légale refuse de remettre son rapport à la famille et à l'avocat de la famille. C'est le parquet d'Ivry aussi qui refuse que ce rapport soit transmis. Et donc, les proches, pour obtenir cette autopsie, ils ont organisé un rassemblement le 13 janvier. Devant l'Institut de médecine légale. Et en fait, suite à ce rassemblement, ils n'ont pas réussi à l'avoir. Et en fait, le parquet dit que, en fait, tant que l'enquête est en cours, la famille ne peut pas avoir ce rapport d'autopsie, donc la famille ne peut pas s'appuyer aussi sur ce rapport d'autopsie pour comprendre ce qui s'est passé et contredire cette version de la paix. Et sur la question de l'autopsie et des autopsies qui sont assez suspectes, je voulais aussi parler de la mort de Sofiane Mostefaoui, qui est mort à la prison de Lyon-Corbas le 11 mars 2013, quelques semaines avant la fin de sa détention. Et donc pareil, la thèse de la paix, ça serait qu'il se serait suicidé par pendaison. Et c'est ce que dit l'autopsie qui a réussi à avoir sa famille. Mais la famille ne croit pas à cette version et ils pensent que l'autopsie a été mal faite. Et notamment, voilà, ils disent que ce qui est marqué dans le rapport d'autopsie est techniquement impossible. Et en fait, elles mettent en cause aussi le directeur de la famille, sa famille, mais aussi en cause le directeur de l'Institut de médecine légale de Lyon, qui a des liens étroits avec les magistrats de Lyon. Et du coup, c'est aussi tout un système qui se couvre, et c'est pas aussi que au sein de la paix et de la prison, mais c'est aussi la justice qui participe à couvrir les meurtres. Et du coup, où les médecins ont un rôle à jouer aussi dans le fait de couvrir la paix, ce qui se passe au sein de la paix, quoi.
Et ces meurtres par les matons, il y a aussi des meurtres par les flics, hein. Enfin, ça se passe un peu pareil aussi quand il y a des violences policières qui conduisent au décès de la personne, et c'est aussi un peu ce qui va être avancé, quoi, où ça peut être déguisé en suicide. Et il y a par exemple les proches de Mohamed Ben Mouna, qui est décédé en juillet 2009, alors qu'il était en gave à Firminy, à côté de Saint-Étienne, et ses proches continuent à se battre pour connaître la vérité, du coup, sur les circonstances et qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Parce que les flics disent qu'il serait pendu dans sa cellule en 2 minutes, qu'il aurait arraché son matelas, fait un trou dans le mur et accroché le matelas et pendu. Tout ça quand il aurait échappé à la vigilance des flics pendant 2 minutes. Du coup, ça semble assez difficile à croire. Et il y a la famille qui, depuis 2009... continue à se battre pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette cellule de garde à vue, et qui se bat toujours, du coup, plus de 10 ans plus tard, parce que c'est aussi ça, c'est aussi des combats qui mettent du temps. Enfin, la famille, les familles, malheureusement, les proches, souvent, ils n'ont pas la réponse en quelques semaines ou en quelques mois, mais c'est des combats de longue haleine et qui demandent beaucoup de force pour essayer de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé, quoi.
Ouais. Et c'est aussi le cas de la famille de Idir, qui est mort en septembre 2020 au mitard de la prison de Lyon-Corbas, 2 semaines avant sa sortie. Et où la paix affirme qu'il s'est pendu. Et voilà, sa famille et les proches ne croient pas du tout à cette version-là. Il y a des témoignages de prisonniers qui parlent, qui étaient notamment d'une personne qui était au mitard en même temps que lui, qui parlent de tabassage, mais qui parlent aussi des mauvais traitements qu'ils ont subis au mitard. Genre pas d'eau, obligé de boire l'eau des toilettes, des coupures d'électricité. Ce qui va d'ailleurs aussi couper les caméras de surveillance. Et donc, voilà, comme tu disais, Alix, tout à l'heure, un endroit potentiellement où ils vont pouvoir tabasser les prisonniers, les prisonnières à l'abri d'être vus, quoi, entre guillemets. Et du coup, il y a une grosse mobilisation de la famille qui a monté une association, IDIR Espoir Solidarité. Pour essayer d'obtenir la vérité sur la mort, comme tu disais, mais aussi pour dénoncer les violences pénitentiaires, lutter contre les quartiers d'isolement, les mitards, et en demandant leur fermeture. Et du coup, cette association et tous les autres collectifs avec elle ont aidé à visibiliser une mobilisation contre les violences pénitentiaires et les morts en détention.
Et on voulait ressouligner une autre fois, enfin, l'importance, du coup, des témoignages des autres prisonniers, du coup, sur ce qu'ils ont pu voir ou ce qu'ils ont pu entendre, parce que c'est aussi important de pas avoir juste la parole de la pénitentiaire qui, comme on l'a dit, souvent va se couvrir, mais d'avoir aussi D'avoir aussi les retours de gens qui ont pu voir ou entendre quelque chose et qui ne sont pas en train de chercher à couvrir les matons. Et l'importance de se soutenir entre proches aussi. Et reparler un peu du réseau Entraide, Vérité et Justice qu'organise, du coup, j'en profite pour redire la marche le samedi à 14h à République. Et du coup, ce réseau qui regroupe des proches, du coup, de personnes qui ont été tuées par la police ou par les matons. Et où ce réseau, il permet aussi aux familles de se donner un peu de la force, parce que c'est des combats longs, en plus il y a le deuil, c'est quand même des gens qui ont perdu quelqu'un proche d'eux, et qui là, en plus de la douleur d'avoir perdu ton proche, tu dois te battre pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. De dépasser la honte aussi, parce que souvent les personnes qui meurent aux mains de la police ou en prison, on va les criminaliser faire reposer la faute sur eux et ce qu'on les accuse d'avoir fait. Il peut y avoir aussi des intimidations parce que la paix, ça l'a fait quand même bien chier d'avoir des familles qui contestent sa vision ou qui mettent en cause les responsabilités qu'ils peuvent avoir. Et de se donner aussi des conseils plus juridiques, comme le fait d'essayer de demander une contre-autopsie sur comment accéder au dossier. Et voilà, on a parlé de plusieurs affaires au sein de cette émission. Et il y en a d'autres, malheureusement, beaucoup d'autres dont on n'a pas pu parler aujourd'hui. Mais ça nous semblait hyper important de faire une émission sur ce sujet-là et parce que la mort en prison, c'est quand même un gros sujet, quoi. Enfin, c'est quand même une conséquence importante, quoi. Enfin, c'est voilà, après la personne, une fois qu'elle est décédée, c'est compliqué. Et que tous les proches, du coup, qui témoignent quand ils perdent un proche en tôle, ça permet de visibiliser que la prison, ça tue, que ce soit par la souffrance provoquée par l'enfermement, le refus de soins ou les violences subies. Et aussi leur tirer notre chapeau, parce que c'est pas facile quand tu te retrouves dans cette situation de perdre quelqu'un, de mener ce combat-là et de vouloir le visibiliser et de pas vouloir se taire, mais de vouloir dénoncer aussi qu'est-ce qui s'est passé et que la prison, ça tue, quoi. Enfin...
Et aussi de soutenir et visibiliser les personnes qui, à l'intérieur, dénoncent et racontent ce qui s'est passé, parce qu'elles vont souvent subir à leur tour des violences, genre être envoyé au mitard, mais aussi tabassé pour avoir parlé par vengeance des matons, des choses comme ça.
Il y en a qui vont être transférées aussi si elles parlent trop, parce que on a envie de les faire taire et qu'on a peur de ce qu'elles vont provoquer au sein de la détention, et du coup elles vont être envoyées dans une autre tôle pour pas que leurs paroles sortent, quoi.
Et sur ces paroles, on va vous laisser pour ce soir. On se retrouve dans 2 semaines. Je ne sais plus. Ah, pour une émission surprise. voilà. Et bonne soirée à toutes celles et ceux à l'intérieur, à toutes celles et ceux dehors.
Et un courage à toutes les personnes enfermées et tous les proches qui se battent du coup pour savoir la vérité, quoi.
On va écouter Fuck le 17 de 13 blocs. Et en fait, tout à l'heure, j'ai oublié, mais on a écouté Tempo de Doria. Bonne soirée, à bientôt. C'était l'émission Carapatage.
Pas plus bien que nous, moi je te le dis, moi. Vas-y. Nique la police, nique la police. J'ai ces trois poids sur mon sage-vie. Y'a les brolis, y'a les polis. Les reins solides, fais ta folie. Vie de voyou, vie de voyou. J'veux ton noyau, croise ton grossiste. Croise ton grossiste, j'veux le produit qui fait rêver tous les drogués. J'ai le bras long, j'suis dans ton salon. Avec le daron de ta pépine, j'envoie des talons. T'achètes des talons pour une carba. Tu suces trop de bites, j'm'appelle 60. J'suis la de 60 millions de diamants. Ferrari, capote, Viris, j'm'accroche. Dans ma sacoche, j'ai mis trois gottes.
Deux fois. Charbonneur non-stop.
Une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur.
En échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu.
Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h.
Sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage,
contre toutes les cages.